me que se pastel.
Me que se pastel.
Oh, me que se passe.
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile, en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les nouvelles du monde de ce jeudi 26 mars 2026. Et on commence sans transition et sans préambule, on va parler du climat terrestre qui chauffe, qui n'en finit plus de chauffer, ça s'accélère et la guerre ne va pas arranger tout ça. Alors tout d'abord, quelques chiffres, hein, puisque bon, on en parle souvent, mais là ce sont les données de l'OMM, l'Organisation Météorologique Mondiale, qui viennent d'être publiées ce 23 mars, donc c'est l'Agence des Nations Unies qui s'interroge sur le climat mondial. Et les mots d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, sont sans équivoque. La Terre est poussée au-delà de ses limites. Tous les indicateurs climatiques clés sont dans le rouge. Voilà, on en est à un point peut-être proche de la bascule, qui risque d'être plus douloureuse pour certains pays que d'autres, et notamment bah, les pays occidentaux, puisqu'on bénéficie d'un climat plutôt tempéré pour le moment. En tout cas, ce rapport intègre pour la première fois, donc parmi les indicateurs climatiques clés, le déséquilibre énergétique de la Terre. C'est en gros, c'est ce qui rend compte de la vitesse à laquelle l'énergie entre et sort du système de la planète, l'énergie qui nous est fournie intégralement par le Soleil, vous le savez. Alors normalement, dans un climat stable, la quantité d'énergie qui sort est à peu près égale à la quantité d'énergie qui sort. On prend des rayons de soleil et ça rayonne. Eh bien cet équilibre est rompu donc par l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre, donc principalement le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d'azote. Ces gaz entraînent donc un réchauffement continu de l'atmosphère et des océans, ainsi que la fonte des glaces. Eh bien ce déséquilibre, donc on peut le mesurer, il s'est accentué depuis le début des relevés d'observation, qui datent de 1960, et en particulier au cours de ces 20 dernières années, il a atteint un nouveau record en 2025, constate donc le rapport de cette organisation. Les activités humaines perturbent de plus en plus l'équilibre naturel et nous devrons vivre avec des conséquences issues de ces dérèglements pendant des centaines, voire des milliers d'années. C'est ce qu'explique la secrétaire générale de l'organisation, Céleste Saulo. L'année 2024, qui a débuté sous l'influence d'un puissant épisode El Niño, reste à ce jour la plus chaude jamais observée de mémoire donc de météorologues. Les phénomènes survenus extrêmes partout dans le monde, notamment des épisodes de chaleur intense, des fortes pluies et des cyclones tropicaux, tout cela ont causé des perturbations et des dégâts. Ils ont mis en évidence la vulnérabilité de nos économies et des sociétés qui sont interconnectées. Pour ce qui est du réchauffement des océans et de la fonte des glaces, eh bien tout cela entraîne une élévation à long terme du niveau mondial moyen des mers. Ça s'est accéléré d'ailleurs depuis qu'on mesure cela par satellite. C'était en 1993, les premières données satellitaires. Le niveau était en 2025 supérieur d'environ 11 cm à celui donc de 1993. Et 11 cm, ça n'est pas rien à l'échelle mondiale. L'excédent de chaleur donc, que l'on conserve sur la planète est stocké à 91% justement dans ces océans. Et ce sont eux qui jouent le rôle de tampon contre la hausse des températures sur la partie émergée, donc là où nous on vit. Mais selon l'OMM, le contenu thermique de ces océans a atteint un nouveau record en 2025. Et dans le même temps, les calottes glaciaires sud et nord, donc l'Antarctique et le Groenland, ont toutes deux perdu une masse considérable. Et l'étendue moyenne annuelle de la glace de l'océan Arctique en 2025 se classe au premier ou deuxième rang des étendues les plus faibles que l'on ait jamais mesurées depuis le début des satellites. Le rapport publié aujourd'hui devrait être accompagné d'une mise en garde. Le chaos climatique s'accélère et toute tergiversation sera fatale, insiste donc Antonio Guterres.
Je vous annonce la fin du monde. Ah
tout le monde va périr.
Encore vous?
Les survivants mourront de faim et de froid, ils ont la peste et le choléra.
Voyons, monsieur, rentrez vous coucher, cela vaudra mieux.
Voilà ce préambule sur l'état de l'évolution du climat pour s'intéresser justement aux conséquences de la guerre en Iran, enfin de la guerre avec l'Iran, je ne sais pas, appelez-la comme vous voulez. En tout cas, une nouvelle analyse vient de révéler que 5 millions de tonnes d'équivalent CO2 ont été émises en seulement 14 jours. 14 jours donc de guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran. C'est The Guardian, un quotidien britannique, qui vient de publier une première analyse donc du coût climatique enregistrée jusqu'à présent. L'agression a généré donc 5 millions de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre au cours de ces 14 premiers jours. C'est le Climate and Community Institute qui l'a mesuré. Cette guerre, donc menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, est un désastre pour le climat et elle épuise le budget carbone mondial plus rapidement que 84 pays peu émetteurs, par exemple, si on les mettait ensemble, pour vous donner un petit peu une image. Et on parle bien de seulement 15 jours. Environ 20 000 bâtiments civils ont été endommagés par le conflit. Ça, c'est pour un petit peu les détails et la manière dont ils ont calculé. Le carburant, bien évidemment, deuxième élément le plus important de ce calcul, avec tout d'abord les avions, les bombardiers lourds américains qui partent depuis l'ouest de l'Angleterre pour mener des raids sur l'Iran. Et évidemment aussi tous les dépôts de carburant qui ont été incendiés, notamment le bombardement par Israël de 4 importants dépôts de carburant aux alentours de Téhéran, ce qui a provoqué l'incendie de millions de litres de carburant et l'intoxication des habitants. Cette analyse estime également qu'entre 2,5 et 6 millions de barils de pétrole ont été brûlés lors de l'attaque et d'autres attaques similaires, hein, puisqu'on peut compter aussi les représailles iraniennes contre ses voisins du Golfe. Le tout a causé l'émission d'environ 1,88 million de tonnes de CO2. Et enfin, on s'intéresse aux armes aussi dans cette étude, à savoir l'utilisation des bombes, missiles et drones, qui s'est généralisée à tous les participants. Au cours de ces donc 14 premiers jours, États-Unis et Israël auraient bombardé plus de 6000 cibles en Iran, tandis que l'Iran, lui, a riposté avec environ 1000 missiles et 2000 drones. Il faut ajouter à tout cela quelques 1900 intercepteurs utilisés pour se défendre. Ça, ce sont les missiles qui sont là pour faire éclater les missiles en l'air. Fred O'Toolarby, qui est l'auteur principal de cette étude et professeur à l'Université de l'énergie et des ressources naturelles du Ghana, déclare qu'il prévoit une augmentation rapide des émissions à mesure que le conflit va s'intensifier, principalement en raison de la vitesse alarmante à laquelle des installations pétrolières sont prises pour cible. Il a également ajouté « Nous devons tous composer avec les conséquences du changement climatique », parle de tous les habitants humains. Personne ne sait avec certitude quels en seront les coûts. C'est pourquoi des études comme celle-ci sont si essentielles. Consommer en 2 semaines l'équivalent des émissions annuelles de l'Islande, c'est quelque chose que nous ne pouvons vraiment pas nous permettre. Alors pour la suite, un autre chercheur, Patrick Biguet, a affirmé lui que l'interruption de l'approvisionnement en combustibles fossiles qui sont causés par la guerre, avec notamment la hausse des coûts à la pompe, tout cela conduira probablement à une intensification des forages. L'histoire en tout cas le prouve, chaque crise énergétique provoquée par les États-Unis a été suivie d'une augmentation des forages de nouveaux puits ou de la construction de nouveaux terminaux de gaz naturel liquéfié ou de nouvelles infrastructures pour les combustibles fossiles. Voilà, la guerre est donc un aspect essentiel du capitalisme et au même titre que ces crises, ce sont au final les civils iraniens et les travailleurs et travailleuses du monde entier qui en payent le prix.
C'est normal, les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches.
Eh bien, des très pauvres qui sont pris dans cette guerre, on va s'intéresser avec le magazine Basta Mag sur le sort de ces marins qui travaillent justement sur tous ces pétroliers. Au large du détroit d'Ormuz, les marins du monde entier risquent leur vie et leur syndicat tente d'alerter justement sur le sort de ces travailleurs. Il faut rappeler que plusieurs marins civils ont déjà été tués dans le détroit d'Ormuz qui est bloqué par l'Iran. Ils sont environ 20 000 marins, coincés depuis des jours, voire environ 2 semaines, autour donc de ce fameux détroit d'Ormuz qui relie le golfe Persique au golfe d'Oman. L'Iran a fait cesser la circulation dans ce couloir maritime depuis début mars, en réponse à l'attaque états-unienne et israélienne du 28 février. Environ 1000 navires sont en ce moment bloqués dans ce golfe Persique. Plusieurs ont été ciblés par des tirs, missiles ou des drones, comme par exemple ce 6 mars où 4 marins d'un navire marchand émirati sont morts lors d'une attaque. Le 1er mars déjà, un marin avait été tué à bord d'un pétrolier immatriculé aux îles Marshall, touché par un projectile alors qu'il naviguait au large d'Oman. Ce même jour, un missile tombait sur un autre transporteur, là aussi tuant encore un marin et faisant plusieurs blessés dans l'équipage. Un autre marin a été tué le 11 mars dans la zone. L'OMI, l'Organisation Maritime Internationale, qui est un organisme aussi dépendant des États-Unis, a ainsi recensé 17 attaques de navires marchands depuis le début du mois de mars dans cette zone. Au moins 6 navires de marchandises touchés par des projectiles dans le détroit d'Ormuz au cours des dernières 48 heures et un porte-container qui a également été touché au large des côtes des Émirats Arabes Unis. Ça, c'est une autre alerte qui est venue le vendredi 13 mars de la part de la Fédération internationale des ouvriers du transport qui représente donc les marins présents sur ces énormes édifices. Une fois de plus, les marins sont placés en danger direct dans un conflit dont ils ne sont pas responsables, dénonçait aussi le secrétaire de cette organisation, Stephen Cotton, qui est britannique. Trop souvent, ces dernières années, dit-il, nous avons vu des marins civils devenir les victimes collatérales de la guerre, que ce soit en mer Noire, en mer Rouge ou aujourd'hui dans le détroit d'Ormuz. Ce sont des travailleurs, souvent originaires des pays du Sud, loin de leur pays et sans aucun lien avec les conflits qui se déroulent autour d'eux. Il rappelle qu'il y a des bombes qui tombent, des navires qui brûlent et des marins qui tombent à l'eau. On peut aussi citer Claire Fletcher, sociologue, qui a justement écrit un livre qui s'appelle « À bord des géants des mers, ethnographie embarquée de la logistique globalisée » et qui s'intéresse donc dans cette enquête au long cours sur la marine marchande et le travail à bord de ces navires avec ce qu'on peut appeler des prolétaires du monde entier. Ces marins, ce ne sont pas des militaires, hein, ce sont des travailleurs civils. Ils sont employés par des entreprises privées qui font souvent circuler les bateaux sous des pavillons dits de complaisance, hein, en gros des paradis fiscaux pour le commerce maritime. Ainsi, les navires sont immatriculés au Panama, au Liberia ou dans les îles Marshall. Ce sont des pays où la régulation est moindre sur justement les taxes sur ces bateaux. La majorité de ces marins, eh bien, ils sont de nationalité philippine, indienne, indonésienne, russe ou bien ukrainienne. Ils sont souvent recrutés par des sous-traitants et des intermédiaires, un système qui ne facilite pas le respect de leurs droits. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, on s'était ému du sort de marins qui étaient abandonnés des fois sur des espèces de bateaux épaves dont la société faisait faillite. L'armateur disparaissait et les gars se retrouvaient sans papier, par exemple, au large de chez nous, de Sète ou de Marseille, par exemple, bloqués sur leur bateau sans évidemment récupérer leur salaire, ni même des fois être rapatriés dans leur pays qu'ils ont quitté quelques années avant. Si on revient à la guerre, les marins ne doivent en aucun cas être exposés à des risques militaires ni servir de monnaie d'échange dans des conflits géopolitiques. Leur sécurité doit primer sur toute considération commerciale. Ça, c'est ce que souhaite donc la ITF, la Fédération ITF. C'était ce 2 mars, justement, une déclaration faite alors que plusieurs navires civils avaient déjà été visés. Chaque jour, depuis que les États-Unis et Israël ont lancé cette opération contre l'Iran, le service d'assistance de l'ITF reçoit ainsi des demandes de marins en quête de conseils, en particulier justement sur leur droit au rapatriement ou bien leur droit de refuser d'aller naviguer. Début mars, toujours la même ITF et également le Joint Negotiating Group, qui est une organisation qui représente, elle, les employeurs, donc les armateurs du monde entier, ils ont conjointement déclaré cette zone du détroit d'Ormuz, du Golfe Persique et du Golfe d'Oman, une zone à haut risque, ce qui déclenche la mise en œuvre de mesures de protection renforcées pour les marins. Par exemple, les armateurs doivent normalement veiller à informer les travailleurs des navires du niveau de sécurité. Ils doivent aussi échanger avec les équipages pour essayer de limiter les risques. La désignation de cette zone à haut risque doit aussi permettre d'ailleurs aux marins de pouvoir refuser de naviguer dans ce périmètre. Enfin, le 5 mars, la classification est passée à un seuil supérieur, hein. On est passé de zone à haut risque à zone d'opération militaire. Là encore, une décision conjointe de ces deux organisations, donc les travailleurs et les employeurs, ce qui implique une prime équivalente au salaire de base pour naviguer dans la zone. L'indemnité sera aussi doublée en cas de décès du marin ou d'invalidité. Enfin, le 13 mars, toujours ces deux organisations ont décidé d'étendre les mesures de protection aux marins qui vont naviguer au large des côtes israéliennes en cas d'attaque de navire. Bon, il s'agit seulement d'un communiqué, hein. Les deux organisations y rappellent le droit, la Convention du travail et divers accords, explique la chercheuse Claire Fletcher. Mais, dit-elle, ce droit peut être difficile à mettre en œuvre du fait de la diversité juridique sur les navires. J'imagine, dit-elle, que les marins français vont pouvoir être rapatriés s'ils le souhaitent. Pour les marins gérés par des intermédiaires, ça va être un peu moins évident. Et s'il faut faire en plus circuler du pétrole, la voix des marins philippins risque d'être assez peu écoutée. Pour la Fédération des ouvriers du transport, en tout cas, la seule solution véritable, c'est la désescalade du conflit. et non pas de payer davantage les marins pour qu'ils naviguent au péril de leur vie. Allez, dernier volet pour illustrer ce qui se passe toujours dans ce conflit. Et on va parler toujours d'énergie et des États-Unis, mais cette fois-ci, on va aller sur un territoire beaucoup plus proche, à savoir Cuba. L'objectif des Nations Unies, justement, c'est d'éviter que la crise énergétique ne se transforme en une crise sanitaire sur l'île. En tout cas, c'est un plan d'aide d'urgence qu'ils ont dévoilé hier soir, donc concernant l'île de Cuba. Francisco Pichon, coordinateur de l'ONU à Cuba, a annoncé qu'un plan de 94,1 millions de dollars avait été proposé pour maintenir en fonctionnement les services essentiels destinés aux personnes les plus vulnérables dans le pays et ainsi sauver des vies. Cette série de mesures, c'est une extension de la réponse de l'ONU aux dommages causés par l'ouragan Melissa qui frappait Cuba en octobre dernier. Ça inclut également l'impact humanitaire de la crise énergétique actuelle qui est aggravée encore par le blocus pétrolier imposé depuis janvier à l'île de Cuba par les États-Unis. Si la situation actuelle se poursuit et que les réserves de carburant du pays s'épuisent, nous craignons une détérioration rapide avec un risque de pertes humaines, ajoutait encore le porte-parole. Le programme de l'ONU prévoit donc, entre autres, un modèle de traçabilité du carburant pour garantir qu'il soit dirigé vers les services essentiels et critiques prioritaires du plan et qu'il ne soit pas détourné. Cette annonce, elle intervient au lendemain des déclarations du directeur général de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, à propos de la situation sanitaire à Cuba, qui est selon lui profondément préoccupante. La santé doit être protégée à tout prix et ne jamais être à la merci de la géopolitique, des blocus énergétiques et des coupures de courant. C'est ce qu'a souligné aussi sur le réseau social X, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui ajoute « La situation à Cuba est profondément préoccupante, car le pays peine à maintenir la prestation des services de santé à un moment de turbulence immense, ce qui entraîne des pénuries d'énergie qui affectent la santé, principalement, j'imagine, via l'alimentation en électricité et en différentes énergies des hôpitaux. » En effet, le système cubain très vétuste en ce qui concerne la production d'électricité soumis à des coupures de courant quotidiennes, des fois jusqu'à 20 heures par jour. Depuis le 9 janvier, aucune cargaison de pétrole n'a été importée sur cette île. Des milliers d'interventions chirurgicales ont ainsi été reportées au cours du dernier mois et des personnes qui ont besoin de soins, des patients atteints de cancer, jusqu'à des femmes enceintes se préparant à l'accouchement, toutes ces personnes ont été mises en danger en raison du manque d'électricité pour faire fonctionner les équipements médicaux ou assurer la chaîne du froid pour les vaccins, explique l'OMS. En plus de ces coupures quotidiennes d'électricité, les prix du carburant ont flambé, les transports publics se font rares et les ordures s'entassent, puisque les camions poubelles ne peuvent plus circuler.
Oh, les ras-bols, tout ça, c'est écœurant à la fin.
Allez, on revient en France pour s'intéresser à la pollution au cadmium. C'est la dernière surprise des analyses de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation. Eh bien, les Français et les Françaises sont de plus en plus contaminés par le cadmium. Le cadmium, c'est un métal cancérogène qui est présent dans les sols et donc dans l'alimentation. Le cadmium, c'est ce qu'on appelle un métal lourd, il fait partie des métaux lourds, qui est donc officiellement classé comme cancérogène et également toxique pour la reproduction. Il joue un rôle important dans l'augmentation des cancers du pancréas et renforce les risques de cancer des poumons, de la prostate, du sein et du rein. C'est donc l'ANSES qui a alerté hier sur une imprégnation forte et croissante de la population française au cadmium. Ce métal lourd est présent dans les sols et va contaminer l'organisme principalement à travers ce qu'on mange. Une surexposition suivant supérieur au seuil de dangerosité pour les citoyens français qui nécessitent donc d'agir rapidement et avec détermination pour limiter les effets néfastes sur la santé humaine. C'est en tout cas ce que souhaite l'ANSES dans son rapport. Celui-ci est le fruit d'un travail de 2 ans et dans ce document, y est dévoilé pour la première fois l'ampleur et la nature de l'exposition des Français au cadmium. C'est Géraldine Carne qui l'explique, c'est la coordinatrice de ce rapport. Elle révèle que près de la moitié de la population adulte, on est à presque 48%, dépasse les valeurs toxicologiques de référence. Et elle rappelait de précédentes alertes qui avaient été mises par son agence depuis 2011. Le cadmium, je vous le disais, est un contaminant qui est reconnu cancérogène, mutagène et générateur de troubles de la reproduction, ainsi que du neurodéveloppement. Or, faute d'être bien éliminé par l'organisme, il s'accumule dans le corps. C'est un peu le principe général d'ailleurs des métaux lourds. Cet élément toxique est ainsi largement distribué dans les organes, d'où des effets qui vont pouvoir toucher les os, les reins, le système cardiovasculaire, le pancréas, la vessie, la prostate ou bien les seins. Près d'un quart des cas d'ostéoporose seraient par exemple attribuables à la présence de cadmium. Les études qui ont été menées au fil des décennies révèlent des taux qui augmentent au sein de la population et donc une situation est particulièrement critique en France où on est bien plus exposé que d'autres pays très voisins en Europe. Pour cette spécialiste, de tels écarts proviennent d'une utilisation plus importante de certains intrants agricoles, on va parler d'engrais phosphatés, et aussi d'une plus forte consommation de produits céréaliers qui sont plus contaminés. En effet, c'est l'alimentation qui explique 98% de ce qu'on appelle l'imprégnation au cadmium, donc la présence de cadmium dans votre corps, avec une exception pour les fumeurs, puisque lui, ils ont le tabac en plus en double exposition. En tout cas, dans ce qu'on mange, la contamination des assiettes provient majoritairement des produits céréaliers, donc le pain, les pâtes, les biscuits, mais aussi les pommes de terre et les légumes, autant d'éléments qui constituent la base de nos menus et dont il est difficile de se passer. L'ANSES appelle donc en priorité à cibler les sols et les pratiques agricoles et donc il faut les changer. Elle recommande d'abaisser en urgence les valeurs limites en cadmium qui sont autorisées dans les matières fertilisantes avec un engagement de l'ensemble des acteurs de la filière et pas uniquement, dit-elle, des agriculteurs. Elle plaide aussi pour mettre fin à la dépendance aux engrais minéraux phosphatés, notamment en essayant par exemple d'exploiter davantage le phosphore qui est déjà contenu dans le sol et en recourant à des variétés agricoles qui accumulent moins de cadmium. À défaut pouvoir faire une croix sur toute alimentation venant du sol, pour vous et moi ça risque d'être compliqué, l'ANSES suggère de réduire la consommation des denrées à base de blé, qui sont à faible intérêt nutritionnel, comme par exemple les céréales du petit déjeuner, les gâteaux ou bien les biscuits sucrés ou salés. C'est ce qui fait d'ailleurs que les jeunes sont très très exposés au cadmium, notamment avec toutes les céréales qu'ils mangent au petit déjeuner. On a pointé souvent le chocolat dans ces trucs car il serait plus contaminé que d'autres aliments, mais il pèse très peu finalement dans ce que, vu la faible part de ce que c'est dans notre alimentation, il n'est présenté ainsi que comme un contributeur mineur à la présence de cadmium dans notre organisme. Et d'ailleurs, le chocolat ne fait, suite à cette étude, l'objet d'aucune recommandation spécifique. Malheureusement, bio ou pas, ça ne change pas grand-chose, puisque la filière bio est potentiellement tout aussi impactée que l'agriculture conventionnelle, du fait du recours autorisé à certains engrais qui vont contenir là aussi du cadmium. Les Français sont donc surexposés. On parle de 3 à 4 fois plus que dans les autres pays, donc ce n'est pas un phénomène mondial. En 2021, la moitié de la population dépassait les normes sanitaires. Et aujourd'hui, je vous le disais, l'imprégnation des jeunes enfants dépasse le double des normes de sécurité. C'est scandaleux et ça fait réagir de nombreux côtés, notamment des secteurs de l'environnement, mais aussi au niveau politique. Par exemple, Manuel Bompard, qui vient de réagir, chez les Insoumis, qui clame qu'il est possible de sortir de cette contamination en cadmium, mais que cela s'oppose au lobby de l'agrochimie, qui engrange des milliards pour nous empoisonner. Le gouvernement, dit-il, a choisi la complicité, puisqu'il avait préparé un arrêté pour diviser par 4 les seuils de cadmium autorisés dans les engrais il y a 3 ans, mais que celui-ci n'a jamais été publié, notamment sous la pression des lobbies.
L'espoir est la base de toutes les rébellions.
Mais il n'y a aucun espoir.
Moi, je dis qu'il faut se battre.
Allez, maintenant on va parler de plastique, je suis en train de vous faire un joli cocktail. Des suites dans l'affaire Nestlé dont j'ai parlé mardi, puisque c'est cette semaine que se tient le procès de Nestlé Water Supply Nestlé Water Supply Est, c'est une branche donc de Nestlé Water qui s'occupe notamment des eaux du côté de Vittel. Eh bien la société est poursuivie pour avoir laissé à l'abandon plus de 473 000 mètres cubes, c'est environ 126 piscines olympiques remplies, donc les 7 équivalents de bouteilles en plastique et autres polluants. C'est sur 4 sites, 4 décharges sauvages, donc à Contrexville, à Theil-sur-Montfort, à Saint-Ouen-les-Parets et à Crainvilliers. Ces dépôts, ils ont entraîné des écoulements de microplastiques dans les eaux superficielles et souterraines, à des concentrations qui rendent toute vie aquatique impossible et ayant des effets nuisibles sur la santé, la flore et la faune. Ça, c'est pour l'accusation, même si je vous disais mardi que, malheureusement, cette pollution microplastique ne sera pas étudiée pendant cette semaine puisque les documents ont été expurgés à cause d'un vice de procédure qui a bien rendu service à Nestlé. En tout cas, quelque chose de sûr, c'est que dans ces procès, l'entreprise a caché des éléments à la justice. C'est donc un nouveau tournant dans ce procès des décharges sauvages, dans les Vosges. La multinationale aurait dissimulé des éléments aux enquêteurs. Alors l'entreprise, elle campe sur ses positions, puisque un de ses avocats assurait qu'il n'y avait aucune forme de pollution sur son site. Mais des documents internes viennent révéler le contraire. C'est Mediapart qui révèle l'affaire et qui a eu accès à des résultats d'analyse interne, donc les analyses faites par le laboratoire mandaté par le parquet ne seront pas prises en compte, je vous le disais, cette semaine à cause d'un problème tout bête de vice de procédure. Mais quand même, on peut voir des recours d'analyse interne et une note confidentielle de Nestlé Waters qui viennent contredire les déclarations de ses responsables auprès de la justice. Dans cette note interne, donc, la multinationale déclare l'existence de plusieurs risques en raison de la présence de ces tonnes de déchets sur son site. Tout d'abord un risque judiciaire, car c'est en infraction avec la législation française que sont faits ces dépôts, mais aussi un risque sur sa réputation qui pourrait être compromise, et enfin, c'est écrit un risque portant sur la qualité des eaux souterraines. Des eaux souterraines, que je vous rappelle, ils mettent en bouteille après. Nestlé Waters a rédigé cette note en 2022, alors que le parquet de Nancy avait ouvert 6 mois plus tôt une enquête préliminaire, sur la question de ces décharges illégales. La multinationale n'avait jamais fait part de cette note à la justice. C'est quand même assez loufoque, hein. Ils mettent de l'eau qui est censée être pure dans des bouteilles en plastique, mais la production de ces bouteilles en plastique génère une quantité monstre de déchets qui foutent juste au-dessus des nappes phréatiques et donc qui polluent l'eau qu'ils mettent en bouteille. On en est là. Ça fait partie de une des casseroles énormes que se traîne Nestlé Waters. En tout cas, ces rapports d'analyse aussi qui ont été faits, que Mediapart a pu consulter, datent de février et décembre 2020. Et ils viennent, eux aussi, contredire les déclarations du représentant légal de Nestlé, notamment concernant les concentrations de microplastiques dans leurs eaux vendues. Contrairement à ce qui est assuré par le représentant, ces dernières donc, ne sont pas de 10 ou 15, donc on parle de microplastiques par litre, mais on est plutôt sur 70, voire même 106. C'est 8 à 13 fois au-dessus du seuil limite qui est décidé en interne et qui est fixé à 8 microplastiques par litre. Depuis le 23 mars, la Nestlé Waters comparaît devant le tribunal correctionnel de Nancy donc pour avoir abandonné, je vous disais, presque 500 000 m3 de bouteilles en plastique et autres polluants sur ces 4 décharges sauvages. Les dépôts ont entraîné des écoulements dans les eaux superficielles et souterraines à des concentrations qui viennent rendre aussi toute vie aquatique impossible avec des effets nuisibles sur la santé, la flore et la faune.
J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.
Allez, on va terminer ces nouvelles du monde avec deux petites histoires. Tout d'abord, un buzz, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un buzz, un bad buzz, en tout cas qui a lieu sur les réseaux sociaux et qui alerte sur la situation de Abou Sangaré. Vous vous rappelez de Abou Sangaré ? Cette révélation, meilleure révélation masculine au César 2025, donc il y a un an, pour son rôle poignant, son premier rôle dans le film « L'histoire de Souleyman ». Eh bien, Abou Sangaré vient de se filmer sur les réseaux sociaux avec sa veste orange fluo au volant d'un engin de chantier, donc en train de travailler. À 23 ans, celui qui incarnait un livreur à vélo qui lutte pour sa régularisation se retrouve rattrapé par une réalité quasi identique. Hein, malgré donc ce trophée, un César et une reconnaissance nationale, le jeune homme, arrivé de Guinée il y a 9 ans pour soigner sa mère, reste enfermé dans une précarité administrative qui l'empêche d'exercer son nouveau métier d'acteur. La vidéo a suscité une vague d'indignation chez les internautes qui dénoncent une forme d'hypocrisie du système. Alors que le monde du cinéma le porte au sommet, l'administration française, elle, semble faire de la sourde oreille. Abou Sangaré est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Enfin, il a été sous le coup d'une OQTF par le passé. Il est titulaire d'un titre de séjour précaire et il ne peut toujours ni intégrer d'école de théâtre ni signer de nouveaux contrats de tournage. En revanche, pour aller bosser sur des chantiers, visiblement, ça ne pose de problème à personne. La comparaison d'ailleurs, elle a été faite hein, avec George Clooney, l'acteur américain qui a été naturalisé français très récemment, après lui seulement 4 ans de résidence. Tout cela vient alimenter ce sentiment d'injustice flagrant. 9 ans de présence sur le sol français et un César ne suffisent pas pour l'heure, donc à stabiliser l'avenir de celui qui est devenu le visage des invisibles. Et les derniers mots de ces nouvelles du monde sont piochés dans les colonnes du journal Alter Midi, qui a réalisé un papier sur le centre culturel embarqué, un centre culturel embarqué donc à bord de la flottille internationale qui s'apprête à prendre la mer pour Gaza. Le centre culturel embarqué, c'est un bateau, donc un navire qui sera dédié à la création, à la mémoire et à la résistance culturelle, un espace de diffusion et de création mouvant qui relie des acteurs, actrices culturelles du monde entier aux artistes palestiniens, cela dans des ports d'escale, donc autour de la Méditerranée, avec le but de faire rayonner la solidarité bien au-delà des vagues. La journaliste a rencontré Emilien Urbach, un de ses fondateurs donc, du centre culturel embarqué, qui est par ailleurs journaliste à l'Humanité et qui couvre l'actualité des flottilles. Il raconte avoir constaté la fragilité donc, du récit lié à ses tentatives de briser le blocus, de la mémoire du mouvement, et il explique que par exemple, quand ils se sont fait arrêter par l'armée israélienne, ils ont tout jeté à la mer, donc toutes les archives, toutes les informations, pour qu'évidemment l'armée israélienne ne les récupère en aucun cas. Donc pour eux, ce qui est important, c'est de conserver la mémoire de ce mouvement. Ils ont travaillé autour aussi du blocus culturel qui touche les artistes palestiniens et palestiniennes, qui ont un art très riche, et sur la nécessité donc de médiatiser, de diffuser et de faire exister la création palestinienne de façon spécifique pour donner donc une place et une visibilité réelle à toute leur création. Ce projet, donc, c'est un bateau qui va suivre les flottilles. Il consiste à s'arrêter avant la ligne rouge, c'est-à-dire avant le point où l'armée israélienne intercepte généralement les bateaux, ce qui est hors des eaux territoriales israéliennes. L'objectif sera ensuite de continuer à faire vivre l'initiative à travers la présence donc, du centre culturel embarqué dans différents ports, tout d'abord pour témoigner, mais aussi pour prolonger la mobilisation à terre. Alors pour ce qui est déjà de la prise de mémoire et d'archives sur place, ils vont distribuer à chacun des bateaux de la flottille, enfin des flottilles, ce qu'ils appellent pour l'instant un sachet de conservation avec un carnet de bord, des notes, un appareil photo pour réaliser des marathons photo en temps réel. Et l'idée, c'est de récupérer ensuite toute cette matière en approchant donc de la zone dite et puis pour la récupérer et qu'elle ne finisse pas dans la mer. C'est environ à 200 000 des côtes de Gaza généralement, enfin en tout cas que les dernières interceptions ont eu lieu. À bord de ce bateau, qui est un ketch de 12 mètres, qui s'appelle l'hétérotope, sont prévus un équipage de 5 artistes et 3 matelots, et la possibilité de rotation lors des escales, ce qui devrait leur permettre d'accueillir entre 15 et 20 participants en tout sur le projet en mer. Depuis le bateau, ils vont également établir des échanges avec des artistes palestiniens restés à terre, cela pour ne pas les exposer à des risques. Et l'idée, c'est que le projet ensuite provoque des démarrages de création, des amorces de réflexion. Les artistes pourraient se rencontrer, travailler en binôme selon leur discipline. Tout est possible, des correspondances, travail vidéo, photo, théâtral. L'imaginaire créatif est ouvert. Et à côté de cela, pour le soutien et justement faire que cette aventure puisse être possible, ils ont lancé un appel en ligne qui était paru dans l'Humanité, qui a particulièrement bien marché, notamment avec des signatures qui ont été apposées par des grands noms du milieu culturel, des artistes renommés, mais aussi, précise Emilien Urbach, des sections syndicales, comme la Fédération CGT du spectacle vivant, les cheminots de la région PACA, des comités d'entreprise, des CCAS, Centre culturel d'action sociale. Donc, dit-il, c'est le monde du travail, entre autres, qui va permettre que ce projet existe. En développant d'ailleurs des partenariats avec ce type de structure, il s'engage aussi à faire un retour à terre, justement, après la mission, ce qui s'appelle la diffusion, et qui peut prendre plein de formes, donc ils sont en pleine réflexion. Un musée éphémère, par exemple, des productions théâtrales, des courts-métrages, expos photos, et aussi, en tout cas, le but, c'est de donner de la force et de la puissance à la culture palestinienne en la promouvant, et il dit, par exemple, aussi, pourquoi pas, dans un centre de vacances, un CCAS. Tout cela nécessite un autofinancement qui dépend largement de la collecte, qui n'est pas simple d'abonder en ce moment. Donc l'appel est lancé ici aussi pour alimenter la cagnotte. Vous tapez Centre culturel embarqué, vous pouvez donner un petit peu et ou beaucoup si vous le souhaitez. Voilà, pour les aider à prendre la mer aussi à bord des flottilles qui sont prévues, je crois, départ début avril. Et pour ce qui est du Centre culturel embarqué, il se joint au départ qui aura lieu de Marseille, plus précisément du port de l'Estac, où ils sont en train de préparer justement les navires. Voilà, chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles du monde. D'ici là, portez-vous bien, couvrez-vous bien, ça souffle.